Toujours pour ce cinquième numéro de Reconfinez-vous à nous, nous avons joint par téléphone Jérôme Baron. Jérôme Baron nous présente la 42e édition du Festival des Trois Continents, une version empêchée qui se déroulera du 20 au 29 novembre 2020.
On a beaucoup plus travaillé à distance que d'habitude, puisqu'il y a un certain nombre de rendez-vous auxquels on était supposé être présent, notamment dans l'agenda festivalier, et puis quelques autres voyages qui avaient été a priori programmés, pas confirmés nécessairement, mais en tout cas programmés, qui ont tous été rendus impossibles. Donc on a travaillé entièrement à distance cette année. Parfois ça complique un tout petit peu les choses, mais néanmoins tout le monde depuis qu'on est quand même beaucoup passé par Internet, les plateformes, les mails, etc., les choses se font quand même beaucoup de cette manière-là. Et puis on a ouvert à peu près à la même période que le confinement, un tout petit peu avant, au moment du Festival de Berlin pour être exact. L'inscription des films en ligne sur notre site pour la compétition et le reste de la sélection officielle. Donc on a eu un certain nombre de soumissions de gens qui nous ont proposé leurs films spontanément, après cet appel à films, et puis évidemment tout un travail à côté qu'on a mené, qu'on mène de toute manière chaque année. Donc ça changeait pas grand-chose auprès des ventes internationales, des producteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, puis de quelques relais internationaux qui nous font signe quand il y a des films intéressants à voir ici ou là. Alors la difficulté, c'est évidemment que quand on se déplace, on rencontre les gens, que le marché cannois a eu lieu en ligne cette année et que d'habitude c'est quand même un endroit où un certain nombre de choses se calent pour nous, en tout cas aussi dans les négociations et plus particulièrement ce qui concerne les rétrospectives, et que cette année on a traité toute cette partie-là à distance. Donc on a fait beaucoup de mails et de réunions online.
Et vous avez reçu autant de propositions?
Ouais, on aura vu, je pense, pas loin. L'année dernière on avait vu pour toutes les sections confondues, compétition et le reste, à peu près 1300 films. Cette année, on en aura vu un tout petit peu moins, mais je pense qu'on doit être pas loin de 1000 au total. C'est l'année prochaine, je pense, on en verra peut-être moins parce qu'il y a eu un coup d'arrêt en termes de production, des retards sur certains films qui ont été pris et qui donc vont probablement freiner un tout petit peu les choses, parce que sûrement les grands festivals comme Berlin, si Berlin a lieu en physique cette année, c'est mal parti. En tout cas, on verra. J'espère que ça aura lieu en mars. Et puis Cannes après, on le sait, posé des options sur des films auxquels nous, on avait prétendu pour la compétition à Nantes. Ouais.
À quel moment vous avez décidé de repenser le festival?
Jusqu'au mois d'août, on était vraiment resté sur l'idée qu'on ferait un festival en présentiel et à peu près dans l'amplitude habituelle. Début septembre, un certain nombre de choses se sont posées très concrètement, notamment concernant Cosmopolis, par exemple. On a l'habitude d'installer nos quartiers généraux pendant le festival. La jauge de Cosmopolis d'accueil public dans l'espace dédié étant limitée à 50 personnes, on a tout de suite compris qu'on ne pourrait pas faire de bar ni de restauration. C'est probablement difficile d'avoir un accueil professionnel digne de ce nom. Et puis on a vu à différents endroits du monde que des quatorzaines étaient systématiquement imposées aux gens qui sortaient du pays ou de leur pays à leur retour, et que si la situation n'évoluait pas en ce qui concerne les invitations envoyées à l'international pour des réalisateurs et des professionnels, on risquait d'avoir un peu plus de difficultés. Donc on a quand même maintenu, je dirais quasiment jusqu'à la fin du mois de septembre, l'idée qu'on pouvait entretenir les choses dans des proportions raisonnables en ajustant un certain nombre de propositions et en donnant vraiment la pleine priorité aux écrans et aux séances. Fin septembre, j'ai décidé, après échange avec la Sushiku, puisque cette année on prévoyait une grande rétrospective à l'occasion du centenaire de ce studio japonais, qui est un des plus grands studios de cinéma de l'histoire du cinéma mondial tout court, de reporter cette rétrospective à 2021, puisque dans des conditions de demi-salle, de demi-jauge, sachant qu'on ne savait pas comment la situation évoluait, faire venir plus d'une vingtaine de copies 35 mm de collection du Japon était un risque pour nous important, financier, puis on ne voyait pas l'intérêt de faire quelque chose d'aussi exceptionnel pour accueillir finalement un public probablement réduit. Et puis pour certains, on a imaginé que la situation dégénérant pour le public plus cinéphile et parfois âgé, il serait peut-être un peu plus compliqué ou les gens seraient un peu plus hésitants à l'idée de se rendre dans les salles. Donc ça, c'était la première décision qu'on a prise, c'est de reporter la Shoshiku à 2021. Et puis par la suite, on a donc travaillé sur une édition un tout petit peu plus limitée.
On va en parler, mais juste là, pourquoi ne pas avoir décidé d'annuler carrément?
Ah non, ça on l'a pas envisagé du tout, à aucun moment, parce qu'on avait les salles de cinéma étaient ouvertes, donc il y avait rien qui nous empêchait de projeter des films. On a vraiment à cœur de, en plus de ça, dans une année où beaucoup de films avaient été empêchés de circuler, d'avoir une vraie visibilité, on s'était dit que cette 42e édition du Trois Continents serait pour certains d'entre eux la possibilité d'avoir enfin un écran de cinéma avec un public devant en novembre. Et donc on a essayé de tenir bon en se disant que voilà, si la situation ne se dégradait pas trop vite, on arriverait encore à maintenir ça. Et puis c'était aussi une question d'honnêteté et de transparence par rapport aux cinéastes qui nous avaient confié leurs films, qui auraient pu choisir d'autres ou attendre 2021, ou choisir peut-être d'autres festivals qui étaient un tout petit peu plus proches dans la ligne de temps, c'est-à-dire dès mi-septembre. Donc on a tout fait pour maintenir le festival. Et puis on a bien vu aussi à travers quelques exemples, que dès que des manifestations culturelles avaient lieu et se tenaient, le public avait plutôt, après un été un peu sec et radin du point de vue des propositions culturelles et puis 2 mois de confinement, que les gens avaient envie d'aller au cinéma, au théâtre ou voir d'autres propositions culturelles. Donc on n'a pas été une seconde tenté d'annuler.
Il n'y a pas de pression, pas de peur de perdre ses subventions.
Non, absolument pas, parce qu'on a eu un dialogue régulier avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels, ville de Nantes, département, région et CNC, pendant le confinement et après, au début de l'été et puis dès la rentrée. Là, il y avait une position assez unanime autour de l'idée qu'il fallait qu'on avance et qu'on maintienne le festival. Donc nous, on n'a pas eu de pression du tout. C'était notre ligne de conduite, enfin, notre feuille de route. Et on a eu un soutien vraiment constant, je dirais, de nos partenaires institutionnels.
Vous avez dit que le public était en appétit pour sortir, sauf que là, il va rester chez lui.
Bah, il va rester chez lui, c'est pour ça qu'on a envisagé de travailler les choses mieux. De toute façon, on n'a pas le choix, puisque on peut pas donner des écrans là où il n'y en a pas. L'idée était de trouver une alternative, puisqu'on avait pensé une deuxième forme du festival, puis une troisième couvre-feu, avant même que les couvre-feux ne soient prononcés pour Marseille, Lyon, Paris et un certain nombre d'autres villes. On avait déjà quasiment une version couvre-feu qui était prête à ce moment-là. Il y avait quelques petits ajustements à faire, mais elle était déjà, on pouvait dégainer là-dessus et tenir encore le festival dans des proportions plus que raisonnables, puisqu'on arrivait à montrer tous les films prévus, en commençant les projections à 9h30 et en les arrêtant à 20h, 20h15 le soir. Et puis, bon, évidemment, le coup d'arrêt du confinement est arrivé. Et là, on n'avait pas du tout, on avait repoussé en fait assez longtemps l'idée de passer sur du online, puisqu'on avait nous-mêmes assisté à tellement de festivals online depuis le mois de mars. Donc, on a surtout pensé au public à ce moment-là, puisque tous les festivals auxquels on a assisté online étaient vraiment réservés aux professionnels. Il n'y avait pas d'interface publique, ou rarement, ou alors très très limité en envergure. Et là, enfin, le réflexe a été, bon, j'ai pensé 2 heures après le discours de Macron qu'il y avait peut-être quelque chose de particulier à proposer cette année, en l'occurrence une programmation de films accessibles à un assez large public depuis, évidemment depuis chez soi, mais qu'on voulait pas couper le lien avec le public.
Il y avait une autre solution, c'était de déplacer les dates. Quelque part, faites des concessions sur les arguments pour défendre le grand écran.
Non, pas du tout, parce que dès que ce sera possible, on a prévu de reprendre la compétition et un certain nombre de films de la sélection officielle. Le problème de reporter les dates, c'est qu'il y a un calendrier 2021 qui est chargé. Janvier, il y aura premier plan à Angers et on se voyait mal déplacer les Trois Continents en janvier, sans savoir d'ailleurs si les salles seraient rouvertes en janvier. On espère pour nos camarades d'Angers que ce sera le cas et que le festival pourra avoir lieu dans les conditions prévues. Au mois de mars, il y a le festival de cinéma espagnol à Nantes qui a été l'année dernière annulé puisque les dates étaient calées juste après le début du confinement. Donc il n'est pas question non plus d'empiéter sur le calendrier ou sur le terrain ou l'agenda des autres festivals locaux. Après, se pose la question d'un report, c'est aussi de remobiliser une équipe et donc des ressources financières pour engager des gens. et qu'un report, c'est quasiment repenser un festival et donc des investissements avec des ressources dont on ne dispose pas aujourd'hui. En tout cas, pas assez abondantes pour pouvoir... parce que là, on a quasiment préparé un festival cette année. Ce n'est pas parce qu'on l'a annulé qu'on n'a pas dépensé une partie du budget. Et donc, de le reporter est un enjeu du point de vue économique qui est beaucoup trop important pour nous. C'est pour ça que si jamais... on en a l'opportunité, je ne sais pas quand elle se présentera. De toute façon, on peut pas prévoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et mois. On essaiera au moins de reprendre les 8 films de la compétition et quelques films qui étaient prévus en séance spéciale.
Sérieusement, ça doit vous faire quelque chose de présenter des films sur des petits écrans comme ça, vous, le cinéphile?
Oui, bah, on aime la salle, on aime la rencontre avec le public, on aime évidemment faire que les gens qui ont fait les films soient là avec le public qui vient les voir, qu'on puisse, lors d'un festival, proposer autre chose que le simple accès à un film, des rencontres, des échanges, des conférences, de faire que le festival soit un plus par rapport à une pratique, je dirais, plus ordinaire, plus quotidienne des salles de cinéma, ou autre chose, en tout cas, je ne sais pas si c'est un plus, mais c'est différent. Bon, bah là, effectivement, on va se replier sur le petit écran, mais on est, je pense, malgré tout, assez satisfait d'avoir pu proposer, parce qu'on s'est entièrement réorganisé en à peine 10 jours, de pouvoir proposer ces séances à domicile, finalement à quasiment 9000 personnes, puisqu'il y aura à peu près 9000 places disponibles.
Est-ce qu'on parle un petit peu de cette sélection officielle, même si elle n'est pas accessible?
Pour l'instant, elle n'est pas accessible pour des raisons de droit, de chronologie des médias et puis de protection des œuvres de certains des distributeurs et des vendeurs internationaux. Leur priorité, eux, c'est vraiment pas de montrer les films en ligne, c'est de les montrer sur grand écran. Une première ou un lancement de film, ça doit bénéficier de la salle, d'un événement, etc. Néanmoins, on a souhaité maintenir la compétition pour le jury, parce qu'on sait que l'obtention d'un prix, ça peut aussi booster ou aider un film pour une sortie à venir en France. C'est fréquemment le cas pour les films primés aux trois continents. Et on est aussi très attaché à pouvoir reprendre les films en salle, parce qu'on sait aussi que le prix du public qui sera attribué si on peut reprendre ces films a une importance non négligeable de temps en temps pour certains films. C'est le cas de l'année dernière du film La Sienne Ferrani, 143 rue du désert, qui, ayant obtenu non seulement la montgolfière d'argent, mais également prix du jury jeune et en plus le prix du public, et ça a été un argument déterminant à trouver un distributeur en 15 jours, 3 semaines après le festival. Un distributeur qui avait déjà vu le film, puisque je lui avais suggéré de le regarder en pensant que c'était la bonne personne pour faire la sortie de ce film, qu'il avait trouvé le film formidable mais qu'il hésitait encore. Donc là, pour l'instant, les films vont être réservés aux professionnels et aux jurys. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu non plus que ça se limite à ça et qu'on a souhaité avoir en parallèle une offre pour le public du festival et plus largement encore, puisque les films sont accessibles depuis toute la France et les territoires d'outre-mer.
Sur la sélection officielle, il y a une ligne transversale?
Non, cette année, il y a 8 films en compétition, 3 documentaires et 5 fictions, sachant qu'une des fictions est un film qui pourrait tout à fait être qualifié de documentaire pour plein de ses aspects. Il a d'ailleurs une durée un peu particulière puisqu'il dure 8h38, ce film. Il y a un bel équilibre entre documentaire et fiction, avec des cinéastes qui reviennent, notamment pour un documentaire puisqu'on accueille pour la 4e fois Kazuhiro Soda, le cinéaste japonais, en compétition. On en est très content. Pour la première fois aussi, et c'est assez rare, une cinéaste femme coréenne, avec un film qui s'appelle Moving On, qui est un film de fiction, un second long métrage qui s'est fait attendre, puisqu'il est l'œuvre de Gerardo Naranjo, qui est un cinéaste mexicain, dont le premier film avait fait beaucoup de bruit à Cannes, Miss Bala, il y a désormais 6 ans. Donc il a pris son temps pour faire le second. On a une programmation, une compétition, je dirais, très diverse en termes d'esthétique, dont on est assez curieux déjà de voir comment les jurés vont s'en emparer, quoi.
Et un film mongol.
Il y a un film mongol pour la deuxième fois, Bedriden, un film d'un très jeune auteur mongol. Donc l'année dernière, le film qui avait gagné était déjà un film de Mongolie, le film de Wang Chanan, La femme des steaks, le flic et l'œuf. Et pour la première fois, 2 années consécutivement, on a un film de Mongolie en compétition. Bon, il est en train de se passer des choses à un certain nombre d'endroits du monde, au point de la carte, de façon beaucoup plus régulière et active que quelques années auparavant. Il y a des points émergents comme ça, auxquels on est particulièrement attentif.
Puis un film azéri.
Ouais, pour la deuxième année consécutive aussi. Puisque l'année dernière, on avait un film d'Ilal Beydarov en compétition, et cette année, c'est le second long métrage d'un jeune cinéaste azéri qui s'appelle Elvin Ali Gozel, et qu'on est très heureux de réaccueillir à Nantes, puisqu'il a participé il y a 4 ans de ça à l'atelier Produire au Sud.
On va parler de la plateforme qui donc va permettre aux spectateurs de voir un film, mais il faudra s'inscrire. Comment ça va se passer?
Le principe est assez simple. Le soir, tous les jours de la semaine, c'est à heure fixe. On peut commencer à regarder le film à partir de 20h. Il y a un film chaque soir, différent. Les séances commencent à 20h et elles se terminent à minuit. Et c'est-à-dire qu'à 20h, on peut se connecter pour voir le film, mais à minuit, le flux s'arrête. Donc il faut absolument faire attention à la durée du film, parce que si le film dure 2 heures et que vous commencez à le regarder à 23h, vous allez en voir qu'une heure. On a élargi le créneau volontairement à 4h de manière à ce que les gens qui sont prêts et disposés à regarder un film à 20h puissent commencer à visionner le film dès le début de la séance, mais on sait que les gens parfois dînent encore à cette heure-là, donc il y a aussi la possibilité de le commencer à 20h30, à 21h ou à 20h30 en fonction de la durée du film. Et sur les séances du soir, on est resté sur des durées assez raisonnables, puisqu'à l'exception d'un film de Kiyoshi Kurosawa, la deuxième partie de Shokuzai, on est sur des durées qui excèdent rarement 130 minutes. Donc un peu, tout petit peu plus de 2 heures, et souvent même un peu moins de 2 heures. Et puis le week-end, une séance l'après-midi, puis une séance le soir. Et pareil sur des créneaux qui sont relativement larges et qui permettent aux gens d'accéder au film. Alors, il faut s'inscrire parce qu'il faut créer, à partir des indications qui seront données sur le site des Trois Continents, un compte avec un identifiant sur la plateforme FestivalScope, qui est notre partenaire et opérateur sur ces séances. Et puis, ensuite, il faudra soit réserver son ticket à l'avance, puisque les salles seront entre 450 et 800 places, selon les négociations et accords trouvés avec les ayants droit de chacun des films. Alors, j'invite les gens vraiment à ne réserver des places que s'ils ont vraiment décidé d'assister à la séance, puisque les places réservées ne peuvent pas être réattribuées. Donc, si vous réservez une place et que vous ne regardez pas le film, vous enlevez la possibilité à quelqu'un d'autre de le voir.
C'est gratuit.
C'est gratuit, oui. Oui, c'est gratuit.
C'est puisé dans le catalogue.
Oui, puisqu'on rentre dans le cadre, il y a des cadres légaux qui sont très précis en France sur la question de la diffusion de films en ligne. Il y a la VOD que tout le monde connaît, qui consiste à acheter un film à la séance ou à l'unité. Il y a beaucoup de plateformes qui le proposent. Voilà, on prend un film et puis on a 24 heures pour le regarder. On le voit un peu comme on veut, ou 48 heures. Et on paye le film en général entre 1,90€ et 4-5€ si c'est un film d'actualité. La SVOD, que les gens connaissent davantage encore, puisque c'est ce que les grandes plateformes Amazon Prime, Netflix et bien d'autres proposent, qui fonctionnent sous la forme d'abonnement mensuel ou un ticket pour un certain nombre de films, c'est possible aussi. Et il y a la free VOD, qui consiste effectivement à faire de la diffusion, ou en tout cas donner accès gratuitement à des œuvres en ligne. Sauf que là, il y a effectivement des questions de chronologie des médias qui se posent d'un point de vue légal et juridique. Et quand un film a été distribué en salle en France, et toujours sous mandat de distribution, il est possible de faire de la free VOD que seulement 3 ans et 8 mois après la sortie du film en salle. Face à cette contrainte, qui, on n'a pas été une très rapidement, on s'est dit que c'était une bonne opportunité de redonner à voir un certain nombre de films passés par le festival, souvent primés au festival. Et puis pour certains, dont la distribution en salle a été réelle, mais peut-être pas assez fructueuse du point de vue de la fréquentation, donc de les redonner à voir. Et puis certains n'ont, pour le coup, pas eu la chance de trouver les écrans, et ce sont des films auxquels nous on est assez attachés, et on se disait que là c'était aussi une chance ou une possibilité de donner à un public une occasion de les voir, et puis à ces films d'être vus ou revus. Donc voilà à peu près comment on a travaillé, mais tout ça mis en œuvre, vérifié et élaboré d'un point de vue technique et légal en 8 jours.
Le public donc va réserver à partir du site du festival Les Trois Continents.
Oui, alors on n'est pas obligé de réserver parce que si on se connecte à partir du site Les Trois Continents à travers la plateforme Festivascope, on peut rentrer à la séance sans avoir réservé s'il reste des places.
C'est nécessairement 24 heures avant ou on peut réserver 3 jours avant?
Non, on peut réserver que 24 heures avant pour la séance du lendemain. Parce que ça, c'est une prudence qui a été la nôtre et tout de suite. Si on ouvrait les réservations pour la semaine, on savait que les gens allaient réserver des billets à tour de bras sans forcément assister aux séances. Ça se vérifie dans d'autres occasions. Bon, on est les premiers à faire ça en France et ça a été très fait en Europe. Hein. C'est vraiment une proposition inédite que cette offre. Aucun festival ne l'a mis en place en France, ni pendant le confinement, ni après. Et il y a eu quelques tentatives de fait ailleurs en Europe, mais jamais avec des billetteries gratuites et avec autant de places disponibles. Voilà.
Par spectateur, vous ne limitez pas le nombre de films.
Ah non, non, les gens peuvent voir les 14 séances s'ils souhaitent assister aux 14 séances. Ouais. Non, on limite pas, on ne peut pas faire ça d'un point de vue technique, bloquer l'accès des spectateurs à un nombre de films. Ce n'est pas du tout notre volonté. Il y aura à peu près autour de 9000 places, sachant que évidemment la particularité de la vidéo online fait qu'on peut regarder un film à deux ou à trois. Et on sait que les études qui ont été faites, compte généralement pour une place 1,3 à 1,4 spectateurs, ce qui fait qu'on peut espérer, on verra bien comment les choses fonctionnent, qu'à peu près 12 000 spectateurs, entre 10 500 et 12 000 spectateurs pourront assister à ces séances.
Un petit mot sur Produire au Sud.
Bah, ça va se passer en ligne, comme tous les ateliers qu'on a menés à l'international depuis le mois de juin. Et là, c'est le quatrième atelier qui, depuis juin, aura lieu intégralement en ligne depuis Nantes. Alors on utilise des outils, on utilise Zoom, hein, qui nous donne la possibilité de créer des séances individuelles, partagées, d'ouvrir autant de salles de réunion qu'on le veut et de créer, y compris à distance, une relation de relative proximité entre les intervenants et les participants. On peut très bien créer une salle avec 3 personnes dedans seulement et les gens travaillent évidemment de façon virtuelle et distancielle, mais dans des conditions qu'on essaye de rendre les plus proches possibles d'une rencontre où régulièrement pendant l'atelier, les gens se voient à 3 ou à 4, quoi. Et puis il y aura des séances collectives et une séance de pitch qui sera aussi diffusée comme d'habitude sur la page du festival et sur Facebook.
C'était important de maintenir ces sessions.
Bah, c'est important de les maintenir dans un contexte où, en plus de ça, les choses pour certains se sont encore compliquées. De là encore, de pas lâcher et de rester proche non seulement des intentions de la philosophie de Produire au Sud, mais de l'idée que c'était surtout pas maintenant qu'il fallait abandonner la formation, l'accompagnement et la promotion des projets sélectionnés, quoi. Plus que jamais, en tout cas sur les projets qui ont été retenus cette année, l'accompagnement est nécessaire.
Rendez-vous lundi prochain.
Pour le début de l'atelier, ouais. Pour le début de l'atelier, le festival, ça commencera vendredi soir, le 20, à 20 h. Avec Au revoir l'été de Koji Fukada. Et on espère qu'en 2021, eh bien, on retrouvera des conditions normales, le public et toute la convivialité que permet d'offrir le festival.
Et qu'on n'aura pas que des films catastrophes sur les virus.
Non, non, on n'en a pas encore vu beaucoup pour l'instant, mais ça va peut-être venir.
Merci à Jérôme Baron, directeur artistique du Festival des Trois Continents, pour sa libre participation à ce 5e numéro de Reconfinez-vous à nous.